Merci de regarder Djoliba TV News, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce Djoliba Focus. Djoliba Focus consacré à cette thématique dont voici la teneur. Stratégie pour la défrancafricanisation du continent. Je pense que j'y arrive avec un mot aussi long. Voilà, que la défrancafricanisation du continent. Vous l'aurez donc compris, il s'agit ici de défrancaniser. Si on peut le dire ainsi, l'Afrique, je pense qu'avec nos invités, nous allons essayer de mieux comprendre les contours du concept. Et donc, pour parler de cette thématique, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, le président, monsieur Privat Ngomo, président de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté. C'est un parti gabonais. Il est également candidat à l'élection présidentielle gabonaise, donc d'août 2023. Président, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau pour pouvoir partager les idées qui me tiennent à cœur avec le peuple malien.
C'est un plaisir, Président. J'imagine que c'est la toute première fois au Mali et quels sont vos sentiments déjà?
Ah oui, effectivement, c'est la première fois que je foule le sol de la patrie de Modibo Keïta. Et j'avoue que je suis très content d'abord de la chaleur des frères maliens qui gardent le sens de l'hospitalité malgré la situation très difficile que le Mali connaît. Et c'est un beau pays. Des hommes formidables, des femmes charmantes. Et j'avoue quand même que ça me fait mal au cœur de partir si tôt. Je pense que je reviendrai la prochaine fois pour passer plus de temps avec mes frères maliens.
Sauf que vous êtes encore là.
Oui, je suis encore là, okay. Jusqu'à dimanche.
D'accord, on espère. Alors, vous l'avez compris, notre second invité, il s'agit de M. Boubacar Bokoum. Il est aussi le président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir, M. Traoré. Merci de m'avoir convié à cette rencontre fraternelle avec mon frère Ngomo, Privat Ngomo, qui, effectivement, nous l'espérons bien, sera bientôt le président de la République gabonaise.
On espère que M. Bokoum aussi sera le président du Mali dans un futur proche, parce que je pense que vous êtes aussi un futur, sinon un potentiel candidat à l'élection présidentielle à venir.
Absolument, c'est pourquoi nous créons les partis politiques avec une vision structurée et structurelle, pour permettre effectivement de pouvoir prendre le pouvoir si Dieu nous prête longue vie, et que à date échue, nous sommes capables de convaincre nos compatriotes de la véracité et de la faisabilité de nos projets, pour que effectivement le Mali soit un pays émergent.
Qu'il en soit intime, ainsi, M. Bokoum. Alors, je disais tantôt, et on va s'entretenir sur la thématique stratégie pour la défrancafricanisation du continent. Président, c'est quoi déjà la défrancafricanisation?
Alors, il y a dans ce mot France-Afrique. France-Afrique, un système mafieux mis en place par Charles de Gaulle et Jacques Foccart pour nous tenir, nous, les pays africains, anciennes colonies françaises, pour nous tenir dans une posture de néo colonie. C'est-à-dire, nous avons eu les atours et les symboles du pouvoir, mais nous n'avons pas la jouissance en tant que substance réelle. Les Africains de l'espace francophone ne sont pas souverains, parce que cette souveraineté est entre les mains de la France-Afrique. Et donc, la défrance-africanisation, j'y arrive, la défrance-africanisation, c'est le processus qui mène à nous départir de la France-Afrique. Pendant longtemps, nous avons cru que le président français, le président de la Ve République française, allait procéder à l'acte de décès de la France-Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes suffisamment édifiés pour savoir que la France officielle et des réseaux ne peut pas tuer la bête qui lui donne tant de plaisir, tant de puissance. Si aujourd'hui la France est membre du Conseil de sécurité permanent, c'est à cause justement de la France-Afrique, à cause de ce piédestal que nous constituons pour que la France puisse se mettre sur ce piédestal et atteindre les hauteurs de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Donc nous avons décidé désormais d'être souverains et de refuser d'être le marchepied d'une France qui en réalité doit se résumer à une réalité hexagonale et à 68 millions d'habitants. Voilà ce que nous sommes en train de proposer comme vision stratégique.
Okay. Oui, M. Bokoum, en entendant parler le président Ngomo, nous avons l'impression que, en tout cas avec la défrance-africanisation, c'est une façon justement de sortir du joug colonial français. Est-ce que c'est aussi votre lecture de la chose?
Mais bien entendu, vous voyez déjà que mon parti s'appelle le Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. Ça veut dire que nous avons conscience qu'effectivement, comme M. Ngomo l'a dit, nous ne sommes pas des États souverains, nous sommes toujours sous emprise. Mais nous, nous avons essayé de pousser l'analyse plus loin, au-delà des années 1884, qui était la date charnière à laquelle on a balkanisé le continent et on a partagé tous les biens de notre très cher continent. On est allé dans l'esprit même de cette doctrine qu'on a appelée la doctrine de la chrétienté du titre de propriété des païens et des infidèles, qui consistait à dire que nous, les Africains, nous sommes des animaux, nous ne sommes pas intelligents, nous sommes des mécréants. Et donc, cette doctrine va permettre à tous ceux qui appartiennent à ce qu'on appelait à l'époque les nations chrétiennes de pouvoir venir sur nos terres, s'approprier de nos richesses et de nos terres et sans compensation aucune. Alors, c'est la même doctrine à partir des États-Unis qui ont entériné cette doctrine anglo-saxonne qui a permis de faire une jurisprudence à partir des réserves indiennes. Donc, cette doctrine aujourd'hui conduit le monde à travers la famille Rothschild et effectivement les branches de ramification de cette mafia à travers ce cartel bancaire financier se déclinent par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui effectivement ont une très grande emprise. Donc au-delà de la France, vous avez la France qui n'est qu'un petit maillon de la famille Rothschild, qui est un petit levier qui effectivement par ricochet parce que à un moment donné, les États-Unis ont compris qu'ils n'ont pas de colonie directe en Afrique. Donc, quelle était l'intelligence subtile pour avoir accès aux ressources? Il fallait envoyer la France devant, la France qui, effectivement, nous a colonisés, qui va permettre la doctrine du franc CFA. Donc, effectivement, toutes ces alchimies qui ont été mises en place consistent à faire de nous des nains, quand bien même nous savons que nous sommes une grande force économique. C'est aujourd'hui inadmissible qu'un continent aussi riche que le nôtre, mais en termes de développement humain, nous sommes les mendiants du monde. Donc, ça nous amène à comprendre que, effectivement, comme M. Ngomo l'a dit, nous sommes sous emprise du système cartel bancaire financier mondial. Donc, cette consommation mondiale à laquelle nous sommes assujettis fait qu'effectivement, le continent ne parvient pas aujourd'hui à émerger.
D'accord. Oui, vous êtes tous, hein, M. Bokoum et M. Ngomo, président du parti politique, vous avez aussi dans vos dénominations le mot souveraineté. C'est quoi, selon vous, votre appréhension? Comment comprenez-vous justement la notion de souveraineté?
D'abord, la souveraineté, c'est une notion qui englobe beaucoup de branches. Mais vous savez, le monde est géré généralement par l'économie. Tout tourne autour de l'économie. Parce que quand vous êtes politique, vous répondez aux besoins essentiels de vos concitoyens. Et nous, on a défini cette demande du citoyen en trois R. On a dit la dignité retrouvée, la grandeur de la société retrouvée et la rémunération revalorisée à travers la prospérité partagée d'une économie globale relancée. Donc, vous allez comprendre aisément que tout ce que vous allez vouloir avoir comme déclinaison, si vous n'avez pas la souveraineté économique, monétaire et financière, ça veut dire que vous passez carrément à côté. Parce que votre souveraineté politique, aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a eu l'embargo au Mali, c'était quoi? Le chantage pour faire plier une décision politique du président Assimi Goïta. Donc, l'arme financière. Donc, tout est régi par les finances. Donc, la première architecture qu'il faut mettre en place, c'est une globalisation de nos capacités et de mutualisation de notre économie. D'accord. Moi, j'aimerais bien être actionnaire de l'entreprise d'exploitation de bois au Gabon. Alors, aujourd'hui, il faut que le Gabon et le Mali comprennent que nous pouvons faire une grande entreprise, ce qu'on appelle les grands consortiums joint venture, qui va nous permettre effectivement d'être actionnaire, d'être co-actionnaire, d'être co-entrepreneur, de mutualiser nos ressources pour avoir une capacité financière énorme qui fasse face à cette machine criminelle de l'autre côté. Parce que vous allez comprendre que chaque fois que vous avez un problème, tout le monde est solidaire, ce qu'ils appellent naturellement subsidiarité. Vous avez les Nations Unies qui suivent les sanctions de la CEDEAO, de l'UMOA, tout le monde est solidaire. Il faut que l'Afrique soit solidaire, nous les panafricanistes, solidaire dans le sens de notre capacité économique, monétaire et financière pour pouvoir peser sur le reste du monde et renégocier les contrats mondiaux, renégocier les droits internationaux parce que, je le rappelle encore une fois de plus, aux Nations Unies, quand on créait les bases de création des Nations Unies, l'Afrique n'a pas été conviée. D'accord. Donc aujourd'hui, le renouveau nécessitera de dire que nous comptons dans le monde, nous avons nos ressources naturelles, nous avons nos leaders, nous avons nos visions. Il faut qu'au moins on commence aujourd'hui à nous écouter pour comprendre que nous aussi, nos populations ont besoin d'un mieux-être. Pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'un Malien devrait aller mourir dans le Sahara? Pourquoi vous pensez aujourd'hui qu'un Malien doit aller mourir dans la mer alors que les ressources pour lesquelles ils s'en vont viennent de chez nous?
Est-ce que cela revient à dire que l'Afrique aujourd'hui a besoin d'une renaissance?
Écoutez, renaissance, peut-être que oui, peut-être que non. Parce que moi, le terme renaissance, je m'en méfie trop parce que simplement, nous sommes des grandes nations, des grandes civilisations. Il ne s'agit pas de renaître, mais il s'agit de se reprendre en main. Parce que tous les ingrédients sont déjà là. Okay. Nous avons tous les atouts, nous D'accord. avons notre culture, nous avons nos richesses, okay. nous avons nos intelligences. Il s'agit maintenant d'enlever les mauvaises graines
D'accord.
pour que les bonnes graines puissent okay. avoir le contrôle du D'accord. système monétaire D'accord. africain.
Ok. Oui, Monsieur Ngono, on a quand même l'impression que la première souveraineté passe d'abord par la souveraineté monétaire. Est-ce que c'est aussi votre lecture de la chose?
J'ai une approche sur cette question au moins pragmatique.
D'accord.
La mienne est peut-être plus philosophique. La première souveraineté d'un homme, c'est la souveraineté spirituelle. Sa capacité à disposer de son esprit et à être en relation avec Dieu, avec les forces supérieures qui ont permis qu'il existe. C'est la toute première souveraineté. Et vous allez voir que la plupart de nos chefs d'État sont soumis à des obédiences spirituelles extérieures qui leur dictent un comportement qui souvent est aux antipodes de ce que les populations africaines attendent. La deuxième souveraineté, après celle spirituelle, c'est la souveraineté culturelle. Car la spiritualité nous dicte un comportement. Et l'ensemble des us et coutumes de ce comportement, c'est la culture. Nous devons pouvoir agir comme les Africains, et non pas comme les Asiatiques ou comme les Américains. Car nous avons une culture qui est propre à nous, en rapport avec notre histoire, avec notre géographie. La troisième souveraineté, et là je rejoins mon frère, c'est la souveraineté économique. Car dans cette culture, nous commerçons, nous agissons, et nous entretenons des rapports commerciaux. Il faut donc, autour de cette réalité commerciale, qu'il y ait une monnaie, qu'il y ait de l'économie, qu'il y ait des activités qui nous permettent de vivre en exploitant les richesses que Dieu a données à notre continent. C'est cela la souveraineté économique, qui passe par la souveraineté monétaire. Or, aujourd'hui, en Afrique francophone, nous n'avons ni souveraineté monétaire, car tout se décide à Paris, ni souveraineté économique, car c'est la réalité monétaire qui produit l'économie dans un pays. Enfin, comme l'activité économique et monétaire doit se faire dans l'intérêt, non pas des grandes puissances ou des grandes multinationales africaines qui pourraient se construire, mais dans l'intérêt des peuples, il nous faut avoir la souveraineté politique. C'est-à-dire que le peuple va décider que tel responsable, nous lui donnons mandat pour qu'il gère toute cette richesse économique au bénéfice de l'ensemble des populations. Et pour que nous ne soyons pas attaqués par des adversaires, par des ennemis extérieurs, il nous faut la souveraineté militaire pour nous protéger. Aujourd'hui, on le voit bien avec le cas du Mali. C'est parce que l'armée malienne n'était pas souveraine qu'elle a fait appel à l'armée française, qui pourtant, en réalité, joue le jeu, aujourd'hui on le sait, des djihadistes. Donc, voyez-vous, c'est cet ensemble de dimensions de souveraineté okay. auquel nous nous sommes attachés.
D'accord. Oui, rapidement, on parlait tantôt de la souveraineté monétaire. Je pense qu'on va essayer de s'apesantir un peu sur la question monétaire parce qu'aujourd'hui, il est quand même, ça revient. En tout cas, nous savons que le Gabon fait partie de la communauté de l'Afrique centrale. Vous êtes aussi régi par le franc CFA, bien que ce soit le CFA de l'Afrique centrale. Au Mali, c'est l'Afrique occidentale. Mais c'est quand même le même CFA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces pays-là sont suffisamment mûrus? En tout cas, pour pouvoir créer leur propre monnaie de nos jours.
Mais qu'est-ce qu'il faut à un peuple pour avoir sa monnaie? Faut-il avoir la tutelle française pendant encore 50 ans? Faut avoir le sentiment qu'on peut piloter notre monnaie? Mais il a dit dans un discours précédent, la monnaie, c'est d'abord une question de confiance. La confiance. Et ensuite, c'est les ressources sur lesquelles nous pouvons adosser notre monnaie. Et après, c'est la gestion que nous faisons de cette monnaie au jour le jour pour le bien-être des populations. Ce sont ces trois critères qu'il faut mettre en avant en réalité. Alors, est-ce que nous pouvons en Afrique susciter la confiance? Oui, l'Afrique aujourd'hui est très courtisée. L'Afrique est devenue un enjeu géostratégique de toutes les puissances. Parce que ces puissances ont bien conscience qu'il y a des choses importantes à faire en Afrique. C'est parfois nous-mêmes, les Africains, qui n'ont pas assez confiance en nous. Donc, nous pouvons bâtir une monnaie sur la base de la confiance. Ensuite, on va l'adosser à quoi ? L'Afrique manque-t-elle de richesses ? Mais le continent africain est le continent, il faut le dire, le plus riche de la planète. Nous avons près de 50% de ressources énergétiques, de ressources minières dans les sols africains. Donc nous ne manquons pas d'éléments sur lesquels adosser notre monnaie. Et pour ceux qui aiment tant de la gestion, mais il nous faut avoir des hommes politiques qui ont le courage de prendre des initiatives qui vont dans le sens justement de créer de l'économie et de permettre qu'une partie de la population s'enrichisse et tire l'autre partie vers le haut. Donc je pense qu'il est temps pour nous vraiment de nous affranchir du joug du franc CFA et d'être des Africains responsables qui pilotent leur économie en vue du bien-être des populations.
Okay. Oui, M. Boukoum, il parlait tantôt de la question de confiance, parce que c'est quand même capital pour pouvoir aller bâtir une monnaie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que... Oui, c'est vrai, nous savons très bien que l'Afrique devient aujourd'hui la mante, vous l'avez rappelé une fois ici, favorite par le passé. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les pays qui nous courtisent nous font suffisamment confiance pour, en tout cas, nous aider afin que nous puissions avoir notre propre monnaie ?
D'abord, on n'a pas besoin de la confiance de ces pays. Pas du tout. Parce que c'est ça le complexe que nous nourrissons généralement en Afrique. Mais avant que je n'aborde la question, permettez-moi, ça a été un oubli de ma part, de faire un clin d'œil à Franklin Nyamsi wa Cameroun wa Africa wa Mali. Simplement, pourquoi je parle de Franklin ? Un grand panafricaniste aujourd'hui qui se voit son compte bancaire bloqué en France. Parce que simplement, voilà un monsieur qui se bat pour l'éveil des consciences en Afrique. Et je profite de cette antenne pour demander à M. Assimi Goïta d'ouvrir très rapidement un compte au Mali, au nom de Franklin Nyamsi, un grand panafricain. Ceci étant dit, la question monétaire nécessite la confiance de qui ? Parce que quand vous êtes, je l'ai rappelé dans ma notion des 3 R, qui prend en compte la culture, la grandeur de la société, vous êtes chargé de répondre à la demande. C'est classique, hein, c'est la pyramide de Maslow, où il y a les besoins fondamentaux des citoyens auxquels il faut répondre. Et ça, vous avez besoin de la confiance des gens qui vont échanger entre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et on l'a connu par le passé, à travers ce qu'on appelle les coris. On n'a pas eu besoin de ce petit bout de papier. Comment quelqu'un qui a une pépite d'or... Je vous rappelle qu'il y a peut-être 20 ou 25 ans, s'il y avait des mariages dans nos familles, nos grandes-mamans sortaient avec quelques pépites d'or pour dire « Donnez ça à ma petite-fille pour qu'elle aille se marier. » Il n'y avait pas d'usine de transformation d'or. Il n'y avait rien. C'était l'empaillage classique. Mais comment se fait-il que nous, aujourd'hui, pendant qu'on dit que le Mali est 3e ou 4e producteur d'or en Afrique, personne d'entre nous n'est capable d'offrir un gramme quand sa fille se marie. Donc ça veut dire qu'il y a une forte duperie, une tricherie des multinationales qui sont des producteurs d'or en Afrique, au Mali. Nous ne sommes pas producteurs d'or. Le Mali ne produit pas de l'or. Dans le cursus qui permet de cibler les pays producteurs d'or, le Mali n'est pas cité comme étant producteur d'or. C'est un pays dans lequel on produit de l'or. Donc, si vous prenez la monnaie dans sa naissance, aujourd'hui, on a besoin de commercer entre nous. D'abord, nous nous faisons confiance parce que vous savez, quand moi je vous envoie un bout de note pour donner 10 000 francs à M. Ngono, c'est parce que vous me faites confiance que vous allez le donner. C'est juste une petite note. Hein. C'est ça l'astuce de la monnaie. Okay. C'est la confiance. Donc j'envoie un bout de papier qui est censé représenter quelque chose. Vous l'acceptez, je l'accepte. Donc c'est cette confiance. Donc la confiance, elle est d'abord locale. Maintenant, la dynamique de la création de la richesse, ça c'est l'économie réelle. Okay. Aujourd'hui, nous sommes dans les finances. Maintenant, l'économie réelle constitue des éléments sur lesquels il faut se baser en termes de production de richesses. L'agriculture, l'élevage et la pêche, et tu n'as pas besoin d'un papier pour le faire. Donc, il s'agit de faire des investissements de haut niveau dans ces infrastructures pour créer de la richesse. Donc, il y a ce que nous avons appelé la création, le système de la création de la richesse, la rétention de la richesse et la distribution de la richesse, ce qui permet d'amener un équilibre dans la société. Parce que quand vous créez de la richesse pour votre peuple, vous vous devez de la redistribuer de façon juste et équitable. Ce qui va permettre de donner la sécurité, la paix et la stabilité. Okay. Alors, ça, ce sont les conditions de la création de l'or monnaie. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de la confiance de la France, des États-Unis ou de la Chine. Non. La confiance, par contre, elle est matérielle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la Chine qui va cracher sur l'uranium. Ce n'est pas la Chine qui va cracher sur l'or. Ce n'est pas la Chine qui va cracher sur le lithium. Donc, aujourd'hui, nous pouvons créer une monnaie qui, dans sa fondation, peut être basée sur les ressources minérales ou minières et adossée éventuellement au yuan pour contourner la France-Afrique.
D'accord. Oui, vous parliez tantôt du panafricaniste franco-camerounais qui avait son compte, en tout cas, gelé, sinon fermé en France. Déjà, nous avons quand même l'impression quand même que ces panafricanistes qui, en tout cas, s'adonnent à ces pratiques-là, qui défendent haut et fort, en tout cas, les causes africaines, mais dans leur propre pays, en tout cas, ils n'arrivent pas à se faire entendre. Comment comprenez-vous, monsieur?
C'est très compréhensible et c'est très facile. Les gens tombent très facilement dans la facilité et dans le piège du dénigrement. Alors, M. Franklin n'est pas le président du Cameroun. Il n'est pas porté par le Cameroun en tant qu'entité politique où il se bat dans un combat politique. C'est un combat idéologique. Et c'est viable à ce niveau. C'est un décomplexe. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité? C'est comme moi, en tant que politique aujourd'hui, je dis je ne suis pas d'accord avec Assimi. OK. Est-ce que cela voudrait dire que je peux enlever Assimi de son poste? Je suis désolé. Mais je suis libre, en tant que démocrate, de dire ce que je pense de sa gouvernance. Alors, aujourd'hui, c'est parce que les conditions sont réunies au Mali et que les Maliens ont compris qu'il faut changer.
Okay.
Le jour où le peuple camerounais va se mettre ensemble pour dire que Biya doit partir parce que nous voulons de telles choses, oui, M. Franklin aura sa place dans l'échiquier politique au Cameroun. Mais il faut qu'on se décomplexe et qu'on arrête, parce que ce discours, il est très important parce qu'il appartient à cette classe de Maliens qui sont d'accord avec la France-Afrique. Nous, nous proposons des solutions alternatives. Alors, si ces gens veulent que ce soit la France qui reste ici, qu'on nous dise le comment et le pourquoi.
D'accord.
Alors, quand quelqu'un dit qu'il ne veut plus de la France, alors est-ce que cela voudrait dire qu'il est chinois ou il n'est pas français? Nous, on a plein d'amis français qui font le combat en même temps que nous, qui nous donnent les informations par rapport à ce que les multinationales qui reversent l'argent dans les paradis fiscaux, dans l'évasion fiscale, dans le blanchiment d'argent. Mais c'est nos amis français et de la diaspora qui nous donnent les informations qui nous permettent de mener ce combat. Donc, il faut qu'on arrête de confondre le combat de l'émancipation et le combat d'un pays. Donc, au Cameroun, il n'a pas la force. Et au Mali non plus, il n'a pas la force.
D'accord.
Mais nous, nous faisons le relais, nous comprenons de quoi est-ce qu'il parle.
Okay.
Maintenant, si les Camerounais ne comprennent pas, ça appartiendrait aux Camerounais.
D'accord.
Mais il faut qu'on arrête de penser que M. Franklin a une baguette magique pour changer le Cameroun,
d'accord,
une baguette magique pour combattre. Non, moi, je critique la politique française, je ne suis pas français.
Okay.
Je fais l'analyse de la situation mondiale. Ben voilà, je suis au Mali.
Très bien. Oui, M. Ngoumou, on a quand même l'impression que le combat, en tout cas la plupart des panafricanistes qui mènent le combat est mené contre la France, contre l'ingérence française. Beaucoup de gens disent qu'ils ne sont pas contre, en tout cas, la politique française, mais ils sont pas contre le peuple français, mais c'est plutôt contre la politique des autorités françaises. Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu. Vous êtes Gabonais, vous avez été à un moment donné emprisonné pour, en tout cas, des faits qu'on vous a reprochés. Quel est aujourd'hui votre état de morale?
Mais je garde un moral d'acier. Dès l'instant où nous avons décidé d'entreprendre une voie très périlleuse, celle d'affronter la France, Afrique, car vous faites bien de le rappeler, le peuple français n'est pas notre adversaire. Et d'ailleurs, il est tenu dans l'ignorance de la politique française en Afrique, car seul le président de la République a autorité sur la politique qu'il faut que la France mène en Afrique. Le président seul, avec sa cellule africaine et l'Élysée. Les questions africaines ne sont pas débattues au Parlement français. Et le président français ne va jamais rendre des comptes au Parlement de son pays. Voyez-vous, c'est donc une ère qui appartient exclusivement au président de la République française, gérée avec les ambassadeurs, avec les services secrets comme la DGSE, avec la cellule africaine. Donc, les Français sont tenus à l'écart, donc ils sont ignorants. Ils ne peuvent pas être nos adversaires. Ils ne font rien contre nous. Nos adversaires, pour ne pas dire nos ennemis, car ils sont prêts à tuer. Ils ont tué Thomas Sankara. Ils ont tué Kadhafi. Ils ont tué Sylvanus Olympio. Ils ont tué Ruben Onyobé. Ils n'hésitent pas à tuer. Nos ennemis ont décidé de tenir l'Afrique sous cloche pour pouvoir continuer, comme du temps des colonies, à exploiter nos richesses. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec cette politique et nous le disons désormais très clairement et très ouvertement. Donc, il faut effectivement qu'on comprenne que ceux qui sont anti-France-Africains, ceux qui récusent la politique française de domination, ne sont pas anti-français. Il respecte le peuple français qui, d'ailleurs, n'est concerné en rien dans les agissements de la classe politique française aujourd'hui.
Oui, c'est quand même très facile, M. Ngomo, d'accuser l'autre. La plupart des cas, c'est la France qui est prise en partie. Alors moi, je me laisse savoir aujourd'hui quelle a été justement la part de responsabilité de nos dirigeants dans cette affaire.
Nous allons considérer que nos dirigeants sont responsables lorsqu'ils sont souverains. Un dirigeant est dit responsable des actes qu'il pose lorsque c'est lui qui les initie, c'est lui qui prend les décisions et c'est lui qui assume. Or, tous les dirigeants de l'Afrique francophone aujourd'hui sont sous tutelle française. C'est la France qui dicte sa volonté et le dirigeant exécute. Nos présidents sont comme des préfets ou des gouverneurs français du temps de la coloniale. Alors, faut-il accuser la marionnette d'avoir agi ainsi ou plutôt le marionnettiste qui a actionné les ficelles? Alors, pendant 62 ans, nous avons cru que c'était nos présidents africains qui étaient à l'origine de cette mascarade, de cet échec économique. Aujourd'hui, il faut maintenant bien réaliser qu'on ne va pas s'attaquer en permanence à une marionnette. Il faut regarder au-dessus de la marionnette les ficelles et celui qui actionne les ficelles, le marionnettiste. Donc, pour répondre à votre question, je ne tiens pas responsable à 100% les chefs d'État africains de la malgouvernance et de l'échec du développement de nos pays africains. Non, ils sont responsables à 10 ou 20%. Car le plus gros des questions fondamentales a été arrêté et décidé par la France. Et justement, nous voulons maintenant être responsables en arrachant à la France-Afrique notre souveraineté. Et c'est quand nous serons souverains que nous pourrons maintenant apprécier la responsabilité de nos dirigeants sur la base des décisions qu'ils ont eu à prendre et des politiques qu'ils ont menées.
Oui. Vous étant la nouvelle jeune élite, comment comptez-vous vous y prendre face à tous ces défis, M. Ngomo?
Alors, il y a, de mon point de vue, trois axes stratégiques qu'il nous faudra développer en même temps. Trois axes. Et nous en avons les capacités intellectuelles, et les capacités psychiques et morales. Premier axe, c'est d'abord de commencer à convaincre la population de notre discours que ce n'est pas forcément la marionnette qui est notre adversaire. C'est le marionnettiste caché derrière qui, lui, continue à actionner cette politique de sous-développement. Donc, il faut que les populations comprennent que le combat, c'est désormais contre la France-Afrique. Car quand, à chaque fois, le combat a été mené contre la marionnette, lorsque cette dernière a été abîmée, elle a été remplacée par le marionnettiste. Il faut maintenant aller beaucoup plus loin, attaquer le marionnettiste qui est la France-Afrique. Première chose. Donc, l'axe du peuple. Le peuple doit participer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs ici au Mali. C'est la révolution du peuple malien qui a amené l'arrivée des nouveaux dirigeants militaires. Donc il y a cet aspect-là qui est important. Deuxième axe, c'est l'aspect panafricaniste. C'est la raison pour laquelle, j'espère que nous en viendrons bientôt, nous avons pensé qu'il nous faut avoir un cadre panafricaniste d'action. Les Africains ne peuvent pas, seuls, dans leur petit pays, s'en sortir. Ils le font depuis 62 ans. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que le marionnettiste a pris soin de nous diviser. Et de cette façon-là, il peut éteindre à chaque fois les feux dans un pays quand ces feux sont allumés, sans craindre que l'autre pays s'allume en même temps. Mais si nous avons désormais une approche panafricaniste, voire néo-panafricaniste, c'est toute l'Afrique qui se rassemble lorsque un pays est concerné. Par exemple, je suis en train de partir aux élections présidentielles, mais je veux que les Africains soient concernés par cette élection présidentielle. Certes, ils ne voteront pas, mais ils prendront part, parce que le joug contre lequel nous battons, c'est le même joug aujourd'hui que le Mali est en train de récuser. D'accord. C'est le même joug que la Côte d'Ivoire subit. Le dernier aspect, et je finis là, il nous faut avoir des alliances géostratégiques avec des puissances qui sont prêtes à nous respecter, à respecter la souveraineté de nos peuples. Pour l'instant, le bloc occidental a montré toute forme de déni à l'endroit de l'Afrique. Ce bloc a été habitué à l'esclavage, habitué à l'impérialisme, habitué à la domination des Africains. Il a du mal à revoir son logiciel. Il est persuadé que l'Afrique, c'est un continent qui est une plantation pour le bloc occidental et que les Africains sont des sous-hommes qui ne méritent pas les richesses de leur continent. Nous voulons avoir des partenaires qui aujourd'hui respectent les Africains, respectent l'Afrique et sont décidés à avoir avec nous de nouveaux contrats d'action.
D'accord. Oui, de nouveaux contrats d'action. Monsieur Bokoum, tout à l'heure, le président Ngomo parlait, il se réjouissait surtout de la dynamique enclenchée par le plan de la transition. notamment en faisant allusion à la, tout ce que, qui a été acquis, en tout cas pour l'armée. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a une force, si on peut dire ainsi, onusienne qui est présente dans notre pays, qui est beaucoup décriée. Je ne sais pas si c'est le cas aussi en Afrique centrale, dans son pays précisément, le Gabon. Je sais quand même qu'il y en a d'autres pays qui sont confrontés à ce problème. Nous savons que ces forces sont souvent, je ne vais pas dire, ils sont quand même beaucoup discutés, parce que leur présence, en tout cas, les gens s'en doutent beaucoup par rapport à l'utilité qu'elle pourra justement produire. Aujourd'hui, la question du munitionnement est refaite surface. Quelle solution pour l'munitionnement?
Les Nations Unies, c'est une machine à business. Les Nations Unies n'ont jamais résolu un conflit à travers le monde. Jamais. Jamais. Alors, c'est un système où aujourd'hui, l'munitionnement cherche à trouver comment employer les militaires de l'Occident. Parce que depuis un certain temps, voilà, le militaire, il coûte cher aux contribuables de ces États. Il faut trouver une occupation. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous prenez la prétendue crise au Mali, je dis bien la prétendue crise parce que je pèse bien mes mots, les mouvements de l'extrémisme violent sont une résultante de la réflexion stratégique des carteurs bancaires, financiers et mondiaux pour effectivement créer le chaos et le désordre, suivant le principe de la doctrine du chaos, suivant les doctrines de choc de Naomi Klein. Ça, c'est tous les grands stratèges au niveau de Saint-Cyr font des réflexions stratégiques pour nous amener à cette dimension congrue qui va nous amener à avoir peur et demander très rapidement l'assistance de celui qui semble être celui qui peut mettre frein à ces chaos. Et c'est ce qui s'est passé à Kona en 2013. Et vous n'êtes pas sans savoir que pendant la même période, les Mirages français ont quitté N'Djamena pour aller faire des bombardements au Niger pour protéger Areva. Donc, les bases qui se trouvent au Gabon, les bases qui se trouvent en Côte d'Ivoire, les bases qui se trouvent au Sénégal, sont des bases mises en place pour protéger les mouvements des capitaux. Mais ces capitaux appartiennent à qui? C'est les multinationales, c'est le blanchiment, c'est la dissimulation. Et ça, ce système est entretenu par ces différents chefs d'État qui continuent à nous appauvrir. Donc, si vous comprenez déjà ce mécanisme en place, vous comprendrez aisément comment est-ce que cette machine essaye de broyer tous ceux qui veulent émerger au niveau du continent.
Mais si, c'est, si vous la considérez comme étant une machine qui cherche à broyer en tout cas le développement des nations, qu'attendent nos autorités en tout cas pour se défaire de ces machines?
Oui, je pense que l'amorce est déjà donnée par le Mali. Vous savez, il y a une menace qui plane sur la tête de, généralement de nos chefs d'État. Il a donné le cas de Thomas Sankara. On a vu Ibeka à un moment donné quand il a essayé de sortir de sa coquille, excusez-moi l'expression, on lui a fait comprendre qu'il y a l'affaire Tommy qui l'attend. Alors, ça veut dire que, quelque part, le phénomène de la corruption, parce que si vous êtes dans le système financier, parce qu'on n'est pas dans le système de la création de la richesse, je vous prends juste un petit exemple. Moi, aujourd'hui, je vais être président de la République du Mali. Monsieur Assimi Goïta pose énormément de problèmes à cette machine de la France-Afrique. Et M. Macron me propose de l'argent pour battre campagne. Et les gens, ils sont partants parce qu'ils veulent de l'argent. On ne veut pas les idées, on ne veut pas les projets, on veut de l'argent. Alors, ils seraient tout de suite partants pour me financer. Maintenant, une fois que je suis financé, ça veut dire qu'il y a eu un deal derrière. J'ai dû certainement promettre à M. Macron que les mines de Faléa en uranium, la France peut s'en servir. Mais quand vous venez au pouvoir, est-ce que vous allez pouvoir travailler pour votre peuple? Impossible. Donc voilà le piège dans lequel effectivement le chef d'État se trouve. C'est pourquoi aujourd'hui nous, notre génération dit non, nous ne prenons pas l'argent de cette France-Afrique. Nous allons nous battre avec notre intelligence, nos idées, convaincre nos compatriotes que les projets que nous portons, c'est pour leur bien, le bien de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc nous n'avons pas d'argent, nous n'allons pas aller nous prostituer en Europe pour faire une collecte d'argent pour dire que nous allons gagner des élections. Gagner des élections en Afrique, c'est très facile lorsque vous vous encoquinez avec ces gens. Mais la gouvernance, on va vous mettre les bâtons dans les roues une fois que vous n'êtes pas dans leur dynamique ou vous n'êtes pas dans la dynamique de leur offrir ce qu'ils ont envie, que vous puissiez les offrir.
D'accord.
Et aujourd'hui, la dynamique impulsée au Mali, c'est que la notion de souveraineté ramène à dire que nous allons avoir un contrôle sur nos ressources, un contrôle sur nos politiques. Tout ce que nous devrons faire ne va plus être dicté par quelqu'un. Okay. Et là, ils ne vont pas hésiter à mettre toute la machine criminelle en marche kidnapping, intimidation et tout ce que vous voulez pour que vous n'y soyez pas.
D'accord.
Et nous, notre combat aujourd'hui, c'est de dire que la dynamique enclenchée par le colonel Assimi Goïta doit être maintenue.
D'accord.
Et on doit dupliquer ces modèles. C'est pourquoi, je vais terminer
rapidement.
Très rapidement, c'est pourquoi cette duplication fait tellement peur au réseau France-Afrique qu'on commence déjà à couper l'herbe sous les pieds de ceux qui se battent. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Je n'ai pas entendu l'organisation de l'unité africaine ou l'unité africaine se prononcer sur la question.
Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal?
L'affaire Ousmane Sonko a été plus ou moins extrait par violence de son véhicule pour juste dire qu'il devrait se rendre à un tribunal. On a vu qu'il a été séquestré. Ça a été vu par tout le monde. Alors, donc, le protocole de bonne gouvernance de la CEDEAO aurait dû se saisir de cette question.
D'accord.
Pour qu'il n'y ait pas de crise. Donc, il faut prendre les problèmes à leur source au lieu de venir en sapeur-pompier après pour dire on va trouver des solutions.
Okay.
Il faut déjà, comme M. Ngomo l'a dit, il faut prendre les problèmes à la source au lieu de gérer la conséquence des problèmes.
D'accord. Donc, M. Ngomo, rapidement, par rapport à la question de la présence des bases étrangères sur le sol africain, mais aussi les forces onusiennes qui, pour en tout cas bon nombre de nos populations, ne servent pas à grand-chose.
Mais regardez d'abord l'historique de ces différentes bases militaires, et vous comprenez quelle est la logique qui sous-tend leur action. Je prends le cas du Gabon. Les Français ont pris possession de notre pays au XIXe siècle, par une armée coloniale. Et lorsque le pays a été sous contrôle, la France a administré colonialement le Gabon, en s'appuyant sur l'armée coloniale. Lorsque vient l'ère des pseudo-indépendances qu'on nous a accordées. Je dis bien pseudo-indépendances. Que fait la France? La France a besoin de maintenir son armée coloniale au Gabon, mais pas sous une forme passéiste, colonialiste, sous une forme plus moderne. Elle fait signer au président du Gabon, le premier président du Gabon, Léon Ba, des accords de coopération militaire qui vont légitimer la présence d'une armée étrangère dans un pays pourtant dit souverain. Et donc, l'armée coloniale va devenir maintenant l'armée française. Et aujourd'hui, il parle d'éléments français. Vous voyez, il joue sur les mots. D'abord armée coloniale, puis armée française au Gabon, et maintenant éléments français au Gabon. Les mots peuvent changer. Le fond reste le même. Ce fond, c'est que la France, un peu comme le faisaient les Romains, lorsqu'ils ont conquis une partie de la terre, ils mettent un fortin militaire, ils sont là, ils ont le contrôle du pays. À travers la base militaire française au Gabon, la France s'assure qu'elle a le contrôle du pétrole de mon pays, du manganèse de mon pays, l'uranium de mon pays, la bauxite, le cuivre, le fer, l'or, le lithium, le tantal, les pierres rares. La France a le contrôle de toutes les richesses de notre pays, telles que écrites et prescrites dans les accords de coopération que j'ai eu l'occasion de lire. Voyez-vous, dès cet instant, cette logique que nous voyons d'impérialisme militaire pour s'assurer le contrôle des terres qui ne leur appartiennent pas, elle se retrouve dans les armées onusiennes, où vous avez la MINUSCO en RDC qui crée en réalité le chaos.
Tout à fait.
Pour que les immenses ressources de la RDC ne soient pas sous le contrôle d'un État souverain et compétent, mais sous le contrôle des multinationales américaines. Et la MINUSCO joue le rôle, justement, comme il disait, de la stratégie du chaos. Nous ne sommes plus dupes et nous n'acceptons plus qu'il y ait des bases militaires africaines, des bases militaires étrangères sur notre sol. Donc, le combat de la fin de ce siècle, c'est celui de la libération et de la souveraineté.
D'accord.
Et la libération passe par le départ, le démantèlement de toutes les bases militaires étrangères. Sauf si un contrat le dit clairement, dans le temps et dans l'espace, la présence d'une force étrangère et ensuite maintenant, naturellement, des armées nationales, républicaines, en situation de protéger les populations et puis d'empêcher que des adversaires étrangers ne viennent prendre le contrôle du pays.
D'accord.
Voilà, moi je pense un peu.
Oui, et parlons un peu du parti au pouvoir, le PDG du parti, je pense que vous n'avez pas certainement envie d'en parler, mais on va quand même le dire ici. D'accord, tant mieux. Alors, ce parti présidentiel, il est là depuis bientôt
1967, donc depuis
bientôt
maintenant
un demi-siècle,
56 ans, plus d'un demi-siècle.
Voilà, plus d'un demi-siècle, donc on va dire ainsi. Alors, comment ça se passe qu'une famille puisse en tout cas s'éterniser au pouvoir à la sorte sans qu'il y ait l'alternance?
Alors, il y a deux mots importants que je vais relever, l'alternance et la famille qui s'éternise au pouvoir. L'alternance a déjà eu lieu. Car l'alternance, c'est le changement de figurine, le changement de personnalité, mais un système qui demeure le même.
Absolument.
Aujourd'hui, le système qui demeure au Gabon et dans la plupart des pays africains, c'est le système post-colonial installé par la France. C'est-à-dire un État central dont les constitutions sont inspirées de la France, un Parlement qui est aux ordres et une justice qui est naturellement également au service de l'exécutif. Voilà la réalité française que nous avons héritée. Donc ce système-là n'a pas changé depuis 1960. Ce qui change, ce sont les hommes. D'abord Léon Ba en 60, puis Omar Bongo en 67, et Ali Bongo en 2009, et on attend le prochain. Donc l'alternance existe dans mon pays. Mais il n'y a pas d'alternative. L'alternative, c'est un changement d'homme et un changement de système. Nous voulons mettre de côté le système france-africain pour le remplacer par un système qui soit plus endogène et surtout tourné vers la fédération de l'État africain. Alors, maintenant, pour ce qui est de la famille qui s'éternise au pouvoir. La famille Bongo appartient à une minorité ethnique qu'on appelle les Teke. Les Teke, c'est une minorité ethnique. Que fait la France systématiquement dans nos pays africains? Elle prend une minorité qui ne peut donc pas s'imposer démographiquement. Elle lui donne les armes, l'argent, la puissance pour dominer sur la majorité. Et cette minorité, pour s'éterniser au pouvoir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire allégeance éternelle à la France. Voyez-vous? Donc, l'éternité de cette famille au pouvoir, quand vous le laissez entendre, encore que je ne pense pas qu'elle sera éternelle au pouvoir, cette famille, mais cette éternité tient au fait qu'elle fait allégeance à une puissance qui est la France. Et nous avons perdu beaucoup de temps à nous attaquer à la famille. Il faut maintenant s'attaquer à la puissance qui donne cette éternité à la petite famille Bongo au Gabon. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire.
Mais monsieur Ngoumo, malgré l'état de fébrilité dans lequel le président gabonais est aujourd'hui, vous n'êtes pas quand même parvenu à poser des actes qui vont dans le sens de cette alternative dont vous parliez.
Oui. Oui, parce que ceux qui se sont posés en adversaire des Bongo, d'abord Omar et ensuite Ali, étaient des opposants france-africains. C'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'ils affrontaient la marionnette, mais était prêt à accepter d'être le vassal du marionnettiste. Et donc, on constate cette fébrilité.
Est-ce que ce cercle-là, votre ancien partenaire, si on peut dire ainsi, Jean Ping, fait partie?
Mais Jean Ping était un France-Africain, avec tout le respect que j'ai pour lui. Il a été directeur de cabinet d'Omar Bongo, il a été des missions secrètes France-Africaine d'Omar Bongo, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été président de l'Assemblée générale des Nations unies grâce justement au système France-Africain. Absolument. Il a même été président de la Commission de l'Union africaine grâce au système France-Africain. Il a fallu qu'il se fâche avec Nicolas Sarkozy sur la crise libyenne pour que la France-Afrique décide désormais de l'écarter et de l'éjecter. Donc, M. Ping est un France-Africain repenti. Peut-être repenti, c'est-à-dire qu'il a compris l'erreur d'avoir joué la carte de la France contre l'intérêt des peuples du Gabon. Donc, nous pensons qu'il faut une nouvelle génération qui a compris, effectivement, que le vrai combat, c'est la défrance-africanisation. Ne pas croire un seul instant que la France est un partenaire, d'accord. La France est notre adversaire, okay. Et nous devons l'affronter. La France officielle et les réseaux, c'est-à-dire la classe dirigeante française, pas le peuple français.
D'accord.
Il est important toujours de relever cette
précision. Oui, M. Bokoum, il parlait tantôt de la minorité d'une ethnie, c'est faisant allusion, soit à l'ethnie du président Ali Bongo Ondimba. Je pense que le même cas, on peut le trouver ici chez nous, au nord du Mali. Nous avons quand même l'impression qu'une minorité d'hommes aussi, décide de prendre, en tout cas, le destin de 20 millions de populations sous couvert d'une puissance étrangère qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre cette minorité ethnique de celui avec ce qui se passe au nord du Mali?
Vous savez, le continent africain, nous avons les mêmes architectures. Nous sommes foncièrement communautaires. Et c'est ce qui a fait notre force pendant très longtemps et que le colonisateur a eu beaucoup de mal à pénétrer. Mais il a amené une intelligence de la balkanisation et de ce qu'on appelle la doctrine de l'expropriation des terres, qui consiste à morceler les terres, qui consiste à nous diviser et à amener la notion de propriété individuelle. Donc on quitte la notion du communautaire, du global, pour entrer dans le fractionnement. Donc je vous prends juste un exemple, si nous avons 10 hectares, vous et moi, si chacun décide de vendre ses 5 hectares, ça veut dire que vous et moi, on est expropriés. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui à travers tout le continent, parce que les multinationales achètent avec des permis, avec des autorisations de nos États qui sont complices. Ils n'ont pas à être dédouanés, parce que c'est par la complicité de nos intellectuels et de nos cadres dans le modèle de pilotage automatique par le système que nous appelons la tyrannie du statu quo, parce qu'ils ont peur de quitter leur posture, parce qu'ils ont peur de violer les protocoles et les différents accords, qu'ils sont obligés de se mettre dans cette posture. Donc, je pense que, grosso modo, la France est l'un des rares pays qui connaît notre histoire ancestrale, parce que pendant très longtemps, nous avons vécu une histoire orale. Alors, les vrais écrits. Vous allez constater que dans nos armées, il y a des communautés qui n'intègrent jamais l'armée, parce qu'ils ont une intelligence. Des communautés qui sont prêtes à obéir au maître, à qui on confie le pouvoir. Parce que chaque fois qu'on veut quitter le pouvoir, on a peur d'être déstabilisé. On veut mettre celui qui vous rassure. Donc, ces notions de minorité sont utilisées partout. Même aujourd'hui, quand tu regardes la configuration des différents chefs d'État qui ont géré même le Mali, c'est vrai que le problème ethnique ne se pose pas de façon très visible, mais ça se fait dans les couloirs et dans l'intelligence de la France-Afrique. Ça veut dire quoi ? Que les gens qui sont minoritaires et qui sont proches de ces différents réseaux France-Afrique, même s'ils ne sont pas assez balèzes, même s'ils ne sont pas acceptés par la majorité de la population, on les impose quand même comme président à travers un système de communication très efficace, avec des moyens financiers costauds et avec la mise en branle de toutes les ambassades et toutes les chancelleries pour imposer celui que l'on veut. Donc la notion de minoritaire, on va voir dans certaines zones, l'ethnie ça marche, dans certaines zones ça ne marche pas, mais il y a toujours cette intelligence de fractionnement économique qui va faire toujours que tu auras des poches sur lesquelles tu vas puiser. Maintenant, pour revenir à votre histoire de la minorité au nord du Mali, je vais bien répondre, mais je pense que ce n'est pas le même cas. Le cas du nord du Mali repose plutôt sur une autre intelligence de l'OCRS qui date de 1957 et révisitée en 1959. Donc, on a utilisé les minorités Touareg pour essayer de manipuler cette machine qui est de la zone des trois frontières. Donc, Félix Houphouët-Boigny était le chantre pour permettre à la France de puiser les ressources naturelles de cette zone sahélo-sahélienne.
D'accord. Oui, rapidement, et on va faire réagir M. Ngomo par rapport à la question de la, des États-Unis d'Afrique. Voilà, ça a été évoqué depuis l'époque de Muhammad Kadhafi, le président libyen, paix à son âme. Est-ce que vous y croyez toujours, M. Ngomo, cette France, cette Afrique, l'Afrique unie en un mot, les États-Unis d'Afrique en un mot?
Vous posez là une très bonne question. Et c'est avec plaisir que je vais y répondre. Laissez-moi juste le temps.
Sauf qu'on n'a pas le temps.
De développer. Mais ce sont des questions fondamentales qui méritent qu'on consacre du temps. Car nous voulons nous intéresser à la jeunesse. Car c'est de son avenir dont il est question. Je suis venu à Bamako avec la casquette de président de l'ONS, de l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, pour préparer avec les Maliens la conférence de Bamako. Qu'est-ce à dire ? Un petit retour dans l'histoire. En 1884-85, les Européens, sans les Africains, sont réunis à Berlin, en Prusse. Et ils ont décidé de se partager l'Afrique. Ils l'ont balkanisée. Chacun a pris son morceau. Nous n'étions pas là. Et ça s'est fait contre nous. Et plus d'un siècle encore, cette logique prédomine, existe en Afrique. Et cette logique de prédation contre l'Afrique ne permet pas le développement du continent africain. C'est évident. Nous avons décidé donc d'arrêter cette logique et donc de commencer par une conférence tout aussi historique qui est celle de la conférence de Bamako, où cette fois-ci, la conférence de Bamako maintenant, où cette fois-ci, les Africains, sans les Européens, vont se réunir dans une capitale qui a les mêmes initiales, Berlin B, Bamako B. Et nous n'allons pas partager notre continent, nous n'allons pas consacrer l'intangibilité des frontières, nous allons au contraire dire qu'il nous faut maintenant réunifier le continent.
Est-ce que les dates de cette conférence sont déjà connues ?
Oui, nous avons l'intention de faire la conférence le 8, le 9 et le 10 juillet. Mais pour l'instant, nous souhaitons discuter avec l'État malien qui doit être partie prenante et c'est en définitive lui qui va arrêter les dates qui s'y est le mieux. Donc, nous avons des dates provisoires.
Pourquoi le choix du Mali?
Le Mali a été choisi parce que désormais, pour tous les Africains de l'espace francophone et même de l'Afrique, le Mali est l'épicentre du souverainisme africain. C'est au Mali désormais que se joue le destin, pas seulement du Mali, mais de toute l'Afrique. C'est au Mali que nous allons, on va dire, mettre en œuvre le nouvel empire Kama, qui pourrait s'inspirer de l'empire du Mali.
Mais M. Ngoumou, dans un passé pas très, en tout cas pas très lointain, ce discours avait été tenu dans d'autres pays. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes?
Mais quand certains ont tenu ce discours, qu'est-ce qui leur est arrivé? On a stoppé la personne dans son élan. On a tué dans l'œuf le projet. Vous avez cité certains noms. Que sont-ils devenus? Kwame Nkrumah, il a eu malheureusement un coup d'État qui l'a écarté du pouvoir. Sékou Touré, on en a fait un parano. Modibo Keïta, il a été emprisonné puis empoisonné. Thomas Sankara, il a été assassiné. Olympio, également. Tombalbaye, aussi. Kadhafi, également. Chaque fois qu'un Africain s'est levé pour porter ce projet, il a été assassiné par des mains, c'est vrai, africaines, mais dictées par les puissances occidentales qui savent très bien que la seule voie politique possible de taux de détermination et de développement du continent, c'est la voie panafricaniste.
Monsieur Ngoumou, plutôt, les États-Unis d'Afrique, est-ce une réalité ou une utopie?
Alors, je vais faire une référence à l'histoire. Je vais partir très loin. Au 4e millénaire avant notre ère, un pharaon, le premier roi de la terre, il faut le dire aux Africains qui nous écoutent, la première fois qu'il y a eu une institution royale sur ces terres, c'était en Égypte avec le pharaon Narmer, appelé ainsi par les Grecs, ou Ménès, et que nous les Africains on appelle Narimari. Narimari a réunifié les 14 cités égyptiennes qui vivaient à l'époque de façon désorganisée. Lorsqu'il a eu ce projet de réunifier la haute et la basse Égypte, ses pères ont dû dire « mais c'est une utopie, Narmer, laisse tomber ». Et pourtant, c'est grâce à ce projet que nous avons eu la première royauté en Afrique et dans le monde. Kwame Nkrumah ne s'est pas trompé, mais c'est parce que justement il ne s'est pas trompé qu'on a tout fait pour torpiller le projet.
D'accord.
Donc je ne suis pas aujourd'hui de ceux qui pensent que c'est une utopie. Et d'ailleurs, le rêve devient réalité lorsqu'on décide de le construire. Et nous sommes venus à Bamako pour dire qu'il nous faut absolument réunifier l'Afrique.
D'accord.
Et cela doit se faire avec l'adhésion de tous les Africains, en commençant par les Maliens.
Les États-Unis d'Afrique, M. Bokoum, vous y croyez aussi?
Mais plus que je ne crois à mon existence. Ça veut dire quoi en réalité le rêve? Vous savez, j'aime bien dire aux gens, pour arriver à la Lune, il a fallu que quelqu'un rêve. Si vous ne vous projetez pas, ça veut dire que vous n'avez pas votre raison d'être. Seuls les animaux, peut-être, de notre perception, n'ont pas de rêve. Les êtres humains doivent pouvoir être capables de rêver, de se projeter et de relever des défis. Maintenant, l'immensité et la complexité des défis ne doivent pas nous amener à croiser les bras. C'est ça aussi le problème de notre élite, que nous estimons être dans la léthargie intellectuelle.
D'accord.
Vous savez, aujourd'hui, quand je dis pour aller à Koulikoro, j'ai besoin d'une grosse 4x4, mais cette 4x4, il faut un chauffeur. Donc, les instruments peuvent être là. Mais si vous ne voulez pas conduire, vous ne voulez pas vous fatiguer, vous ne voulez pas fournir d'efforts, comment vous voulez, simplement parce que vous voulez vous mettre devant la 4x4, vous vous dites, je veux aller à Koulikoro et que vous allez y aller. Donc, à un moment donné, il faut que nous, les Africains, on arrête.
D'accord.
Rien n'est facile sur cette terre.
Okay.
C'est un combat,
d'accord,
c'est un défi, c'est un challenge.
Okay.
C'est faisable. Les États-Unis d'Afrique, c'est même, il y a même une amorce. Ce que les gens ne comprennent pas, généralement. Les politiques sont manipulées. Mais je vais vous rappeler juste quand il y a eu l'embargo du Mali, juste à la veille de la fête des Tabaski, les Sénégalais sont venus à Bamako payer le mouton. Est-ce qu'on a pu les empêcher d'entrer? Donc vous ne pouvez pas faire des frontières. La frontière, elle n'existe pas, elle n'est que virtuelle. Donc une fois que vous créez les conditions économiques viables, où les peuples ont besoin les uns des autres, moi je vais aller chercher du bois au Gabon.
D'accord.
Je finirai par dire, l'architecture que nous avons proposée à nos amis de l'Afrique, c'est de dire que nous partons dans le modèle de co-entrepreneuriat économique des États-Unis d'Afrique, même si les politiques ne suivent pas. Ça veut dire quoi?
Okay.
Aujourd'hui, je termine rapidement, je dis l'or qu'il y a au Mali, on a aujourd'hui 14 mines déclarées, bien même qu'il y en a plus que ça. je les fusionne en une seule grande entreprise et mon frère du Gabon peut être actionnaire, pas une multinationale.
D'accord.
Mon frère du Ghana, qui a aussi une expérience dans l'or, peut être avec moi.
Okay.
Donc, si nous créons des grandes entités économiques avec des branches,
okay,
nous sommes sûrs de pouvoir susciter l'intérêt et la dynamique de l'économie réelle,
okay,
sans frontières, d'accord, parce que vous savez que l'Europe fait des barrières.
D'accord.
Mais les gens, ils franchissent les barrières pour aller mourir simplement parce qu'ils ont leur intérêt de l'autre côté.
Très bien.
Il s'agit juste que nous, nos États, nous comprenons que nous n'avons pas de barrières pour nos frères,
okay,
gabonais.
Okay.
Ils peuvent venir prendre le riz à Nyono,
okay,
ils peuvent venir prendre de l'or à Kenyeba, ils peuvent venir aller prendre du sable à Koulikoro. Mm. Donc si nous faisons cette ouverture économique, okay, les barrières artificielles vont tomber et cette dynamique va faire que les peuples, on se retrouve, on a la même histoire,
okay,
on a les mêmes racines.
Okay.
C'est juste les mouvements des peuples qui ont fait que,
d'accord,
les gens ont eu des sites,
okay,
différents.
Comme quoi, qu'en Afrique, on n'a pas besoin de murs, mais plutôt de ponts pour nous relier.
Mais les ponts sont déjà là, il,
d'accord,
faut juste le déballer. C'est
concrétiser. Oui, M. Ngoumou, rapidement, le 26 février 2023 dernier, vous déclariez votre candidature à l'élection présidentielle gabonaise. Est-ce que vous y tenez toujours? Si oui, comment allez-vous faire? Rapidement.
Effectivement, j'ai déclaré le 26 février 2023 ma candidature à l'élection présidentielle au Gabon. J'entends être le candidat de la jeunesse, le candidat d'une société civile qui a pris acte de l'échec des partis politiques classiques, mais également le candidat panafricaniste, car j'apporte un discours qui est nouveau au Gabon. Vous savez, nous avons la réputation, nous Gabonais, d'être Gabon d'abord, hein, de nous fermer sur notre petit pays extrêmement riche et nous ne voulons pas être dérangés par des idéologies qui viendraient de loin.
D'accord.
Moi, je suis un panafricaniste,
okay,
dirons même un néo-panafricaniste. Maintenant, comment je compte m'y prendre? Mais d'abord, en commençant par expliquer le projet de société aux Gabonais, déjà, et en leur faisant comprendre que le vrai combat, ce ne sera pas de vaincre la marionnette, mais surtout de neutraliser le marionnettiste qui souvent empêche à celui qui a été élu, le candidat de l'opposition, de prêter serment. Dans ce discours, il faut que les Gabonais le comprennent.
Okay.
Ensuite, j'ai besoin d'avoir le soutien des frères africains. Leur dire que l'élection présidentielle, certes, les Gabonais iront voter, mais elle vous concerne.
Okay.
Elle vous concerne parce que nous nous battons contre un système franc-africain, okay, qui existe dans l'ensemble des pays de la sous-région,
d'accord,
d'Afrique francophone. Et donc, ce que vous allez faire pour nous aujourd'hui au Gabon en 2023, nous le ferons en 2024 pour le Sénégal, pour le Mali, nous le ferons en 2025 pour tous les pays qui auront leurs élections présidentielles. Il faut désormais que les Africains s'impliquent,
d'accord,
dans les élections présidentielles d'un, d'accord, pays voisin.
Très bien. Monsieur Bokoum, vous êtes président d'un parti politique. On a quand même, on sait que quand on est président d'un parti, c'est pour concourir au suffrage universel.
Absolument.
Est-ce qu'en 2024, Monsieur Bokoum est candidat, va être candidat à l'élection présidentielle? Ou sinon, s'il y a une éventuelle candidature du colonel Assimi Goïta, auriez-vous la mobilité de désister au profit de cette candidature?
Mais écoutez, vous posez plusieurs questions complexes en même temps. D'abord, pour être franc avec vous, je suis candidat.
Ah, vous êtes candidat?
Je suis candidat au présidentiel de la République du Mali pour 2024. Maintenant, la question de Assimi Goïta. Assimi Goïta, pour nous, gère une transition que nous avons appelée pas la transition du Mali, mais la transition de l'Afrique. Il l'a dit, le monde aujourd'hui, il est global. Alors, si ça marche bien pour mon frère gabonais et que moi, je m'assois dans mon petit coin, on aura toujours des problèmes. Il faut qu'on comprenne que la matière, elle est complexe. C'est des solutions globales et non parcellaires ou partielles. Donc, nous sommes dans une synergie où nous voulons que l'Afrique, dans sa globalité, sorte de cette ère mitterrandienne de la démocratie dans laquelle on nous a fourré,
okay,
pour aller à une nouvelle ère d'espoir démocratique,
d'accord,
pour un continent émergent.
Okay.
Maintenant, la question de savoir si Assimi Goïta est candidat. Pour l'instant, à ce que je sache, il n'est pas candidat. Voilà. Le jour où le problème se posera, s'il,
d'accord,
est candidat,
d'accord,
si nos projets concordent et qu'il est dans l'optique et dans la vision réelle que je veux pour mon pays,
d'accord,
peut-être qu'on discutera, peut-être c'est lui qui cédera pour moi.
On ne sait jamais. Monsieur Ngoumou, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. J'aimerais que vous fassiez, vous regardez la caméra en face de vous et que vous adressiez aux Africains en tant que panafricaniste, en tant que futur candidat à l'élection présidentielle gabonaise.
Je vais d'abord remercier le peuple malien pour son hospitalité, car les ancêtres maliens ont bien voulu que je foule le sol de la patrie d'Assimi Goïta. Je veux également remercier tous les frères maliens aujourd'hui qui m'ont témoigné leur sympathie. Je pense à mon frère Bokoum, mais je pense également à l'honorable Mohamed Ousmane Aïdara et à tous les autres qui ont bien voulu m'ouvrir les portes de leur bureau pour que je puisse venir exprimer l'idée qui me porte aujourd'hui au Mali. Je suis venu pour parler de la conférence de Bamako, qui est une conférence importante à laquelle j'appelle tous les panafricanistes à participer. Il s'agira pour nous de présenter la nouvelle Afrique que nous voulons pour les siècles à venir. Notre planète est en train de bouger. Les lignes sont en train de bouger. Nous quittons le monde unipolaire, nous évoluons vers un monde multipolaire et il ne tient qu'à nous les Africains de faire en sorte que l'Afrique devienne un pôle puissant, respectable. Nous en avons les atouts, nous en avons les moyens. C'est le discours que je tiens en tant que président de l'organisation Néo-Panafricaine de Souveraineté, qui n'est pas une association gabonaise, mais une association panafricaine. C'était juste la petite correction que je voulais apporter. Maintenant, pour ce qui est de la présidence, à la République du Gabon, je suis candidat et je compte sur le soutien de mes frères maliens qui m'écoutent, par vos prières déjà, et par votre implication dans un combat qui concerne certes les Gabonais en termes d'élections, mais qui concerne les Africains en termes de débat. Car de quel Gabon voulons-nous? Un Gabon toujours sous la férule de la France? À partir de ce pays, on va continuer à déstabiliser les autres pays grâce à la base militaire française? Ou bien un Gabon qui s'est débarrassé de la pure France africaine et qui va permettre de sécuriser les autres pays de la sous-région? Si un candidat panafricaniste prend le pouvoir au Gabon, la base militaire française sera démantelée et nous sortirons du franc CFA. Nous briserons les instruments de domination que la France utilise depuis maintenant 60 ans pour nous écraser et nous avoir à sa solde. Donc soutenez la candidature de Pierre Ngomo, soutenez la candidature du panafricanisme renaissant. Voilà le message que je voulais passer à mes frères du Mali.
Merci, merci beaucoup. Votre mot de la fin.
Bon, mon mot de la fin, c'est de dire que je souhaite bonne chance à mon frère Ngomo pour que très rapidement il puisse avoir le pouvoir au Gabon et qu'on puisse nous rendre aussi au Gabon en tant que Gabonais pour aller fêter sa victoire. Et l'autre chose, c'est de pouvoir très rapidement créer cette fédération du continent africain qui nous est très chère. Et pour ce faire, je pense que moi, en ce qui me concerne, sortir du franc CFA, c'est une question de jours. Si je suis au pouvoir, les premiers mois qui vont suivre acteront ma sortie du franc CFA, de la CEDEAO, de l'UMOA. Pas pour dire qu'on n'est pas fédérateur. On est au contraire à la recherche d'une nouvelle fédération qui n'est pas viciée, qui n'est pas infiltrée par la France-Afrique. Donc créer des dynamiques dans lesquelles effectivement l'Afrique serait unie sur des bases saines, donc des entités économiques, géographiques et historiquement viables. Et c'est de ça que nous rêvons. Donc je pense que très rapidement, je pense à un modèle économique que je vais partager avec mes amis du continent africain qui va faire que effectivement la richesse elle va être globale. Donc une intégration économique globale qui va intégrer les collectivités territoriales que nous sommes en tant qu'entité aujourd'hui considérée comme pays. Dans l'Afrique globale, nous allons être considérés comme des petites collectivités territoriales qui vont effectivement créer la richesse pour l'ensemble du continent africain. Donc ce modèle, c'est un modèle qui a été élaboré par un Malien, un économiste quantitativiste qui a beaucoup travaillé au Pentagone aux États-Unis, qui a créé ce qu'on a appelé le modèle SANU, qui permet effectivement d'avoir un modèle de joint venture qui permet de fédérer l'ensemble du continent africain, d'avoir une monnaie unique africaine, d'avoir un système de défense africain, ce que nous avons appelé la co-entreprise militaire des nations dans l'Afrique, un système de défense stratégique qui a été mis en place par ce modèle, qui va permettre effectivement à nous-mêmes Africains, bon, si on a besoin du service de quelqu'un, on peut le louer, on peut acheter des armes, on peut acheter tout ce qu'on veut. Mais c'est nous qui sommes souverains de notre défense africaine. Donc, nous avons très rapidement, pour se faire cibler trois zones stratégiques, Djibouti, N'Djamena et Tessalit, pour être effectivement les branches de cette co-entreprise militaire qui va être gérée par l'ensemble des États africains pour surveiller notre espace, pour nous défendre quand on le veut. On n'a pas besoin de l'amunissement. Donc, l'amunissement, on peut la dire de rentrer à la maison parce que effectivement elle n'a pas à se substituer à l'État du Mali. Aujourd'hui, qu'est-ce que la MINUSMA joue comme rôle? C'est de financer des petits projets, de s'intéresser à la politique, de s'intéresser à la société civile, alors que nous, on a besoin qu'on libère notre espace. Donc, s'ils n'ont pas une capacité militaire pour se battre aux côtés de l'armée malienne, nous pensons que la MINUSMA, en l'État, doit vraiment regagner le bercail.
Merci. Et laisser nous merci. Merci infiniment, monsieur beaucoup. Merci infiniment à vous.
C'est voilà, mesdames et messieurs,
c'est sur ce mot que nous allons refermer ce Libre Focus. Je rappelle que nous étions avec monsieur Privat Ngomo, président organisation néo-panafricaniste de souveraineté, candidat à l'élection présidentielle gabonaise pour le mois d'août 2023. Nous étions également avec monsieur Boakar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, comme thématique stratégie pour la défrance-africanisation du continent. Ce fut un plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter ce Libre Focus. Nous vous donnons rendez-vous dans notre Libre Focus. D'ici là, nous vous souhaitons de passer de bons moments de télévision accompagnés de nos programmes. Allez, à une prochaine édition. Merci.